Néhémie, chapitre 3, les versets 33 à 38. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière calcinées ? Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre la muraille de pierre, il la brisera. » Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille et, sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur.
Je suis sûr qu'en tant que Cannois ou des alentours, habitant près de la mer, vous connaissez tous le principe d'Archimède. Qui veut que tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une poussée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé et appliqué au centre de gravité de ce corps. Alors selon la légende, Archimède a découvert ça dans son bain à Syracuse au 3e siècle avant Jésus-Christ et il s'est écrié « Eureka, j'ai trouvé !» Alors c'est sympa, c'est très sympa ce principe d'Archimède et cette histoire d'Archimède, mais je ne sais pas si on réalise combien ce principe est effroyable. Imaginez ce petit corps innocent qui n'a rien demandé mais qui est plongé dans ce méchant liquide qui exerce sur lui une pression qu'il atteint dans son centre de gravité. Je trouve que la physique est impitoyable. Eh bien, ce principe d'Archimède se vérifie tous les jours sur nos petits corps. Nous qui sommes plongés dans la société, nous subissons de la part de cette société une poussée contraire qui agit sur notre centre de gravité. Tout chrétien plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide, etc., etc., un principe d'Archimède appliqué à nos petits corps, sous pression. Et Paul le disait à son ami Timothée, à son fils spirituel Timothée, qui était plongé dans la société païenne d'Éphèse, en fait, nous dit-il, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu seront persécutés. On pourrait traduire, seront mis sous pression, seront pressurisés. Et j'aime cette traduction de la Bible au Semeur, tous ceux qui sont décidés, tous ceux qui sont résolus à vivre sérieusement leur attachement à Christ seront mis sous pression. Car vous voyez, ce principe d'Archimède se vérifie surtout sur les individus qui ne se satisfont pas du statu quo de leur vie, qui ne se satisfont pas des tas de ruines de leur vie, ou qui ne se satisfont pas des portes relationnelles qui sont consumées ou brisées. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent vivre et qui ont des projets ou des rêves de reconstruction dans leur vie avec Dieu et pour Dieu. Et vous voyez où je veux en venir. Je parle de Néhémie. Néhémie qui veut reconstruire la muraille qui entoure la ville pour témoigner de la gloire de Dieu et pour défendre la réputation de Dieu pour les habitants de Jérusalem et alentour. Et Néhémie va revisiter ce principe d'Archimède, la poussée, la pression, l'opposition sur son petit corps. Et il y a 2 semaines, c'est intéressant, nous avions laissé Néhémie et les habitants de Jérusalem en plein élan. Vous vous souvenez, ils retroussaient leurs manches et ils disaient « Levons-nous et bâtissons !» Et puis au chapitre 3, le début du chapitre 3, vous verrez, si vous le lisez, que tout le monde semble être bien en place et bien à sa place. On est quasiment dans l'idéal. Waouh ! Tout le monde retrousse ses manches. Mais l'idéal ne dure pas, si tant est qu'il existe d'ailleurs. Et arrive l'opposition. Et avec l'opposition, il y a évidemment le risque que l'élan ne se brise, que le chantier s'arrête et que le rêve tourne au cauchemar. Et il est intéressant de voir comment Néhémie va se comporter par rapport à cette opposition. Comment surmonter l'opposition. Et pour Néhémie, l'opposition prend la forme d'un individu qui porte le doux nom de Sambala. Et c'est un homme de Samarie, au nord de Jérusalem et de la Judée. On ne sait pas très bien quelle est l'étendue de son pouvoir, mais Sambala semble être le caïd de Samarie. Il a des hommes avec lui. Et déjà au chapitre 2, au verset 10, alors que la reconstruction de la muraille n'a pas encore commencé, Sambala prit très mal le fait qu'un homme, Néhémie, soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Ça n'a pas encore commencé et Sambala est déjà mécontent. Et un peu plus tard, quand ça commence justement la reconstruction des murailles avec Néhémie, il le prend encore plus mal. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Et je risque un jeu de mots, Sambala s'est emballé. Réaction très vive de ce Sambala. Et on se demande pourquoi. On ne l'explique pas, mais en tout cas, ça semble montrer comme une perturbation chez lui à l'intérieur. Et peut-être que lui-même ne sait pas trop pourquoi il est mécontent de ce projet de gloire de Dieu à Jérusalem. Il aurait comme une force qui le pousserait à s'opposer. Et l'opposition prend une forme assez particulière, celle du mépris. Et au verset 34-35, « Qu'est-ce que ces minables juifs veulent donc faire ?» s'écrie Sambala. « S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière calcinée ?» On note le nom « minable ».« Minable », c'est « juif minable ». En espagnol, le mot minable se dit débiles, débile, qui a donné débile en français, débiles. Très méprisant. On note aussi l'ironie. Auront-ils un culte de reconnaissance pour l'inauguration ? On entend les types de Sambala pouffer de rire derrière. Il est trop fort, Sambala. C'est normal, c'est le chef. Et Tobia, lui, l'ammonite, au-delà du Jourdain, en Transjordanie, qui doit être en visite, en rajoute avec l'histoire du renard. Voilà, le petit renard dont Pascal nous a parlé tout à l'heure. Mais un petit renard, tout tranquille, tu mets un renard là-dedans et tout sera détruit. Oh, on pouffe encore. C'est bien fait tout ça. Sambala fait le buzz. Un coup médiatique, excellent cette image du renard de Tobia. Pas d'arguments, pas de faits, pas de factuels, mais du bagout et des belles images qui parlent et qui font rire, et ça nous rappelle les discours populistes. Facile, très facile, mais très fort. Car si le ridicule ne tue pas, il peut faire très mal. Il peut démoraliser, et c'est le but. Allez-vous arriver au bout de cette muraille, vous les minables ? Non, mais vous vous êtes regardés ? Le mot hébreu pour minable, cette fois c'est pas en espagnol mais c'est en hébreu, peut être utilisé, est utilisé autre part dans l'Ancien Testament pour dire sans espoir. Vous êtes des minables sans espoir. C'est sans espoir, alors arrêtez tout de suite les frais. Il y aurait beaucoup à dire sur le mot minable ou sans espoir et peut-être que vous avez déjà entendu ça dans votre enfance, à l'école, à l'université, dans votre famille, où vous êtes nul, minable. Peut-être que vous avez déjà rencontré de cette pression par le mépris. Je me souviens, nous avions fait un camp de ski dans les Dolomites avec jeunesse ardente, mais belge, du côté belge. Et on avait vécu dans ce camp un super moment spirituel, très très fort. Et il y avait beaucoup de non-chrétiens, de jeunes non-chrétiens dans ce camp, et une de ces jeunes filles, une jeune fille, a vécu quelque chose pendant ce week-end. Elle est rentrée chez elle et elle a raconté à ses parents. Ses parents qui l'écoutent, qui n'étaient pas chrétiens. Ses parents qui l'écoutent à table, et puis sa mère, à la fin du discours de sa fille, enthousiaste, lui dit « Et quoi ? Tu veux devenir bonne sœur ?» Et Véronique, ça l'a complètement déstabilisé, le mépris de sa mère, pour cette expérience spirituelle qu'elle avait eue. Dans un autre registre, je me souviens qu'un copain du lycée m'avait dit « T'es un chouette gars, Eric. Dommage que tu sois chrétien. » Et moi, ça m'a fait sourire, ça m'avait fait sourire. Mais quelque part, ça m'avait touché quand même. Et puis, un peu plus tard, vient une autre forme d'opposition, la conspiration. Chapitre 4, verset 2, nous ne l'avons pas lu, mais lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Et donc les opposants s'organisent dans une espèce d'encerclement. Au nord, les Samaritains, au sud, les Arabes, à l'est, la Transjordanie, et à l'ouest, sur la bande de Gaza, les Ashdodiens. Et tous ces gens se liguèrent, tous ensemble, pour causer du dommage. C'est une conspiration. Ils spirent ensemble, ils soufflent ensemble, comme le loup sur la cabane des trois petits cochons. Et là, il y a plusieurs loups qui encerclent la maison, et ceux à l'intérieur se sentent pressurisés, encerclés. Et c'est un sentiment, le sentiment d'encerclement que nous connaissons également. Ce sentiment d'encerclement où on a l'impression que le liquide, ou on va dire plutôt l'air ambiant, nous pressurise de toutes parts où tout est remis en question dans tous les domaines de notre vie, vie sentimentale, vie conjugale, vie professionnelle, vie relationnelle, vie... Que reste-t-il ? Où que vous vous tourniez, vous ne voyez pas d'issue. Votre patron est de mauvaise humeur et il semble vous en vouloir. Vous êtes sournoisement mis à l'écart. Les beaux-parents sont compliqués. Votre grand garçon a des mauvaises notes partout, sauf en gym. Votre fille sort avec un gars qui ne fait rien dans sa vie. Votre femme se plaint que vous passez trop de temps sur votre ordinateur. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Votre mari se plaint que vous êtes toujours fatigué. C'est jamais vrai. Et en plus, l'embrayage de la voiture a lâché. Et puis, pour couronner le tout, à l'église, on vous demande encore de vous engager. Vous êtes encerclé de toutes parts. Vous n'en pouvez plus. Et il y a des temps comme ça d'encerclement. Et ce n'est pas vraiment de l'opposition, mais tout semble se liguer contre vous. Ou tout semble conspirer pour vous faire baisser les bras et laisser tomber les projets de reconstruction dans votre vie, des projets avec Dieu et pour Dieu. Oui, tout semble conspirer contre cela. Des moments où toutes les valeurs que vous défendez en tant que chrétien semblent ne pas fonctionner dans la réalité. Ou des moments où être chrétien semble poser plus de problèmes que cela n'en résout. Ça vous dit quelque chose, ça ? On savait que la vie chrétienne n'était pas une sinécure, mais quand même, on espérait être un petit peu protégé, voire même béni, si possible. Et là, non. Il y a des moments où le centre de gravité est touché par la pression du liquide ou de l'air ambiant et qu'on a envie de dire comme le psalmiste Asaph dans le psaume 73, « Il en faudrait peu pour que je ne trébuche dans ma relation avec Dieu. » L'équilibre est perturbé parce que les loups soufflent sur la maison et cela de tous les côtés. l'opposition par le mépris et par l'encerclement ou la conspiration. Et les résultats se font directement sentir. Fatigue et découragement. Je lis le texte. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Tout à coup, la fatigue se fait sentir. Le travail n'est plus si drôle. Les premiers jours, poser les briques, c'était vraiment nouveau, c'était amusant, c'était fun même. Et puis, maintenant, parce que l'opposition est passée par là, ça ne l'est plus, on fatigue. Les briques n'ont plus le même poids. Elles sont plus lourdes qu'avant. Et tombe la phrase fatidique, c'est plus comme avant. Et puis, le découragement. Les décombres sont considérables, mais elles ont toujours été considérables. Au début, elles étaient considérables et parce qu'il y a eu de l'opposition, elles sont encore plus considérables que considérables. Nous avons présumé de nos forces en nous lançant dans cette aventure. Il y a en fait du vrai dans ce que pense l'opposition quand elle dit que nous sommes minables. C'est vrai ce que disent les gens du pays promis. Nous sommes des sauterelles, comme l'a rappelé Pascal. Ça, c'était le week-end à Saint-Martin. Fatigue et découragement. Et je pense que, comme moi, vous n'auriez pas eu envie d'être là à ce moment-là. Une ambiance lourde. Tout le monde fait la tête. Il y a un seul qui sourit et c'est l'adversaire, le Satan, l'adversaire. Lui, il rigole. Et bien sûr, il reste en coulisses et on note que dans le texte, Néhémie jamais ne va désigner ou personnifier Sambala comme étant le Satan personnifié, pardon. Jamais il va le dire. Mais pourtant, Satan est là, l'adversaire, en coulisses. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. Le Nouveau Testament l'appelle le prince de la puissance de l'air, le Satan, l'adversaire. Celui qui fait pression, l'air qui fait pression. Il fait pression, c'est lui l'inspirateur de cette conspiration dans un seul but, que Dieu ne soit pas glorifié par la reconstruction des murailles de Jérusalem, que Dieu ne soit pas glorifié dans nos vies et que nos vies ne soient pas restaurées. C'est le but du Satan, de Satan. Alors que va faire Néhémie ? C'est un test pour lui, cette première opposition, cette opposition. Qu'aurions-nous fait ? Que faisons-nous quand nous nous sentons pressurisés, mis sous pression, quand nous vivons l'opposition ? Et Néhémie, tu sais plus où j'en suis, comment surmonter l'opposition ? Oui, c'est bien. Néhémie et les habitants de Jérusalem vont faire quelque chose de très simple. Ils vont se mettre à prier. À vraiment prier. Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise, fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ben voyons. Alors on est un peu surpris de cette prière de Néhémie, on se dit qu'il n'a pas lu l'Évangile. Et pour cause. Le sermon sur la montagne prononcé par Jésus viendra à quelques 400 ans plus tard. Et nous sommes dans le cadre de l'ancienne alliance avec toute sa rudesse et que le Dieu d'amour se révèle progressivement à travers les deux testaments. Mais en ayant dit cela, on n'a pas tout dit, parce qu'on retrouve ce genre de paroles dans les psaumes, que l'on appelle des psaumes d'imprécation ou des psaumes imprécatoires. Et au lieu d'une image de quelqu'un qui prie tranquillement, ce serait plutôt le point levé dans ces prières d'imprécation. Et moi j'aime en particulier dans ce style le psaume 58 verset 7 où c'est David qui parle à Dieu en pensant à ses ennemis, où il dit, je cite, et là je signale que je cite parce que Dieu casse-leur les dents dans la gueule. C'est littéral. On se dit que David était un peu énervé. Mais il y a dans ces paroles imprécatoires quelque chose à apprendre pour nous. Nous qui prononçons toujours de belles paroles, n'est-ce pas? Peut-être, excepté fait de... quand on est dans un bouchon à Cannes. Mais il faut savoir que ces prières étonnantes sont paradoxalement une manifestation de confiance en Dieu et en sa souveraineté. Quand on nous attaque, quand on s'oppose à nous, quel est notre premier réflexe? La contre-attaque. On nous a méprisés ou ridiculisés, on va envoyer une petite rafale à la mitraillette de mots bien choisis, bien sentis. Peut-être une lettre anonyme même. Et ça, c'est notre réflexe. Celui de David et de Néhémie, c'est de s'en remettre à Dieu. De ne pas entrer dans l'escalade verbale avec celui qui s'oppose, mais tout dire à Dieu. « Seigneur, tu as entendu. Seigneur, tu as vu. Tu connais les blessures que cela provoque. Qu'il soit fait selon ta justice. C'est toi qui vois. » Moi, je propose une action radicale de ta part, mais c'est toi qui vois. Je m'en remets à toi et à ta justice. Et donc, paradoxalement, ces paroles d'imprécation sont des paroles de confiance et de maîtrise de soi. Il y a Jules Marcel Nicole, vous savez, le patriarche évangélique du XXe siècle, qui racontait, il est parti rejoindre le Seigneur maintenant, mais qu'une missionnaire toute gentille, et vous voyez ces missionnaires toutes gentilles qui n'auraient pas fait de mal à une mouche, a été un jour kidnappée par des troupes rebelles et emmenée de lieu en lieu pendant des mois. Et après s'être échappée, elle a raconté combien pendant ces semaines de détresse, elle a été soutenue et consolée, pas par les gentils rebelles qui n'étaient pas gentils, mais par les psaumes d'imprécation, chaque jour, pour cette gentille missionnaire innocente, tranquille. Un psaume d'imprécation dans lequel elle pouvait s'en remettre à Dieu. Et vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de vouer son voisin à la damnation éternelle parce qu'il tond sa pelouse en dehors des heures réglementaires, c'est pas ça. Il s'agit de s'en remettre honnêtement à Dieu, de remettre honnêtement à Dieu sa souffrance, sa colère, son incompréhension devant l'opposition. Et vous savez, à Pau, à l'église de Pau, nous avons eu, il y a 2 ou 3 ans, notre week-end d'église avec le fils de Jules Marcel Nicole, avec Émile Nicole, et le thème, c'était « Prier avec les psaumes ». Et comme par hasard et par hérédité, Émile Nicole nous a beaucoup parlé des psaumes d'imprécation. Et cela nous a fait un bien fou à la communauté. Et le dimanche matin, le temps de prière libre fut d'une intensité incroyable. Même Émile Nicole n'avait jamais vu ça après ses prédications. Comme si une libération s'était opérée. Dire à Dieu sa révolte, sa colère, sa souffrance. Et puis, après avoir prié, les habitants de Jérusalem ont fait quelque chose de nouveau et de très très fort. Ils ont simplement continué. Prier, vraiment prier, et puis continuer, simplement continuer. Verset 38, il est écrit « Cependant, nous avons continué ». Vous connaissez le proverbe arabe « Les chiens aboient, la caravane passe ». Quand j'étais enfant, j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et puis il y a un proverbe un peu plus lointain, en Orient, « La bave du crapaud n'atteint pas le vol de l'hirondelle ». Le même sens, les deux. Qu'importe les moqueries, le ridicule, l'opposition, la caravane continue, le vol de l'hirondelle aussi, et le mur monte jusqu'à mi-hauteur, nous dit le texte. Et cette déclaration toute simple, « Cependant, nous avons continué à rebâtir », rend tout à coup Sambala et tous ses acolytes tout petits. Cette phrase simple mais forte les a rétrécis. Ils s'étaient dépensés, mis en colère pour haranguer leurs troupes, pour démoraliser les bâtisseurs, et la seule réponse qu'ils obtiennent, on va continuer. Dans certaines versions, il est écrit « Nous continuâmes » au passé simple. Continuer, simplement, continuer. Et il me semble, chers amis, que trop souvent dans l'opposition ou devant l'opposition, on s'arrête pour s'expliquer, pour justifier, pour faire le point, pour prendre du recul, pour trouver un compromis. Et je me dis qu'on ferait bien de simplement continuer. La persévérance du faible pressurisé triomphe de l'opposition méprisante du fort ou de l'adversaire. Et je me dis que on peut sourire en coin devant notre désir de vivre en tant que chrétien dans le monde, on continue. On peut sourire en coin quand on parle de mariage comme d'une relation exclusive et durable, on continue. On peut sourire en coin quand on parle d'intégrité dans la vie et dans les affaires de la vie, on continue. On peut, ou le monde, peut sourire en coin quand on parle d'engagement pour le prochain et le service de l'Évangile, on continue. On peut franchement rigoler quand on parle d'un Dieu créateur qui distingue entre le bien et le mal, qui est à la fois justice et amour, qu'il s'est donné lui-même en Jésus-Christ comme une solution au problème du mal. On peut sourire, on continue à le célébrer, ce Dieu d'amour et de justice en Jésus-Christ. Continuer, c'est bien là la meilleure des réponses. Mais il faut le rappeler, s'ils peuvent continuer là, les habitants de Jérusalem, c'est bien parce qu'ils ont prié avant. Et même pendant, et qu'ils s'en sont remis à Dieu, le Seigneur, ils n'ont pas simplement serré les dents et fait comme si de rien n'était, ils continuent avec le moral en haut du cœur. Ils prirent à cœur leur travail, nous dit-on dans le texte, parce que leur frustration, leur douleur, leur peur devant l'opposition verbale, ils les avaient apportées à Dieu dans la prière. Ils peuvent alors reprendre le travail à la muraille avec beaucoup de cœur, parce que Dieu le leur avait rempli de sa présence. On raconte qu'un grand... Cependant, nous avons continué. On raconte qu'un jour, le grand concertiste Ignace Jan Paderewski, je ne le connaissais pas, mais j'ai appris à le connaître, un Polonais, était en retard à son concert. Et un petit garçon de 9 ans qui est venu de l'assistance et qui est monté sur l'estrade et qui a commencé à jouer sur le piano à deux doigts, un morceau qui s'appelle Chopsticks, avec Chopin peut-être, Sticks, non, Baguette, ok, ching, ching, ching. Alors au début les gens de l'assistance ne s'aperçoivent de rien et puis ils commencent à murmurer. En entendant la musique de débutant, et les murmures se transforment en bronca. Mais qu'on fasse sortir ce sale gamin, quelle musique horrible, il joue trop mal, mais que font les parents, quelle éducation. On est venu pour la vraie musique, pas ce gamin trop minable, trop nul. Non, dehors. Et dans les coulisses, Paderewski entend le tumulte et jette un œil, prend son veston, il rentre sur scène, se place derrière le garçon et improvise une mélodie pour accompagner le garçon très impressionné, et le virtuose lui murmure à l'oreille « Continue, mon garçon, continue. » Continuer malgré l'opposition pour que la musique de Dieu se déploie dans notre vie, pour que sa gloire se manifeste par la reconstruction des zones en ruine, continuer pour l'avancement de son règne dans ma vie et dans le monde. Sur le plan de la prédication, il y aurait encore deux points à ajouter, et on n'a pas le temps de le faire. Après, prier, vraiment prier, continuer, on aurait pu ajouter, prendre des mesures concrètes. Et on aurait pu ajouter comme quatrième, se souvenir de qui est Dieu et de son projet pour nous. Et tout ça, c'est dans le chapitre 4 de Néhémie que je vous invite à lire cette semaine. Le chapitre 3 et le chapitre 4. C'est votre devoir de la semaine. Mais je ne veux pas mettre la pression. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Ah oui, à appliquer dans sa vie sans modération. Surmonter l'opposition. Un chant qui nous parle de restauration dans de verts pâturages, près de la source, qui qui nous parle de confiance alors que nous traversons peut-être des vallées ténébreuses, qui nous parle de victoire face à l'ennemi, de table dressée devant les ennemis. Vous l'avez reconnu, c'est le psaume 23 et c'est le chant Yahvé que nous chantons ensemble. Pardon pour ça. Maryse avait choisi.